Au tout début de mon ministère, j'ai eu la joie d'accompagner un groupe de lycéens au JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, que Jean-Paul II avait réuni à Częstochowa, en Pologne. Un moment exceptionnel, plus de 2 millions de jeunes et pour la première fois des jeunes des pays de l'Est avaient pu franchir les frontières, les murs, pour manifester publiquement leur foi après plus de 60 ans de persécution. Mais le pape Jean-Paul II avait invité ceux qui pouvaient, de retour des JMJ, à s'arrêter dans un lieu chargé de mémoire à quelques kilomètres de Cracovie, de s'arrêter au camp d'Auschwitz. Nous l'avons fait. La visite dura près de 3 heures dans un silence absolu. Et ce silence dura longtemps encore dans le bus après notre départ du camp. Un silence pesant. Jusqu'à ce qu'un étudiant prenne enfin la parole pour me poser la question que je redoutais. Mais pourquoi Dieu n'a pas empêché cela? Devant tant d'injustices, tant de cruautés qui marquent l'histoire des hommes, comment peut-on oser parler de l'amour de Dieu? La présence du mal, de la souffrance dans le monde peut faire douter de la bonté de Dieu et peut-être même nous faire douter de son existence. Mais il y a la croix du Christ. Pour nous chrétiens, Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Dieu a entièrement assumé notre condition humaine jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Oui, nous croyons que dans l'homme cloué à la croix, c'est Dieu lui-même qui a souffert. Nous croyons, et nous sommes la seule religion à le croire, en un Dieu qui a fait l'expérience de l'injustice, l'expérience de la souffrance et de la mort, et cela pour une seule raison, nous prouver son amour. C'est cet acte de foi face à la croix qui fait un chrétien. Oh, on peut croire qu'il existe un Dieu tout-puissant qui a créé le monde et qui décide de la vie et de la mort. On peut croire en Dieu, comme me dit un de mes amis, parce qu'il faut bien quelque chose avant et quelque chose après. Mais un chrétien ne peut en rester là. Nous ne croyons pas en un être suprême situé au-delà du monde et qui ne serait qu'un spectateur indifférent au drame de la souffrance humaine. Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, comme nous allons le dire, mais dont la toute-puissance est une puissance d'amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous venons de l'entendre dans l'Évangile. Parce que le mal et la souffrance sont mystérieusement présents dans le monde, malgré la volonté de Dieu, la toute-puissance de Dieu ne pouvait se manifester que par l'abaissement, que par l'humiliation de la croix. Ce que dit la lettre aux Philippiens, qui est une des plus anciennes professions de foi de la première communauté chrétienne, lui qui était de condition divine s'est dépouillé en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, il s'est abaissé jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Mourir sur une croix. Nous avons du mal aujourd'hui à saisir la force scandaleuse de ces mots pour un chrétien des premiers siècles. Mourir sur une croix. Les chrétiens des premiers siècles savaient ce que cela signifiait. Ce supplice était de loin l'exécution la plus cruelle, la plus infamante, une torture réservée aux esclaves et aux condamnés de droit commun, une mort atroce, une longue agonie où le condamné cloué, suspendu à la croix, s'épuisait en essayant de respirer et s'étouffer dans des souffrances indescriptibles. Nous nous sommes accoutumés au crucifix de nos églises, de nos maisons. Nous nous sommes accoutumés aux croix plantées, à la croisée des chemins, et encore, je ne sais pas pour combien de temps, mais encore sur les places de nos villages et de nos villes. Nous sommes en quelque sorte habitués à cette représentation du Christ en croix, parce qu'heureusement, nous n'avons jamais vu de vraie crucifixion. Mais quand saint Paul écrivait la lettre aux Philippiens, c'était bien différent. Il était impensable, impensable pour un chrétien des premiers siècles de représenter Jésus crucifié, parce que la croix leur faisait horreur. Il leur faudra du temps pour associer l'image de Dieu, l'image du Dieu créateur, à celle d'un crucifié. Ce n'est que lorsque l'Empire romain, devenu chrétien, abandonne le supplice de la crucifixion, que l'on commencera à représenter la croix, et encore, dans les mosaïques qui décorent les absides romaines, des basiliques, la croix sera représentée à partir du 8e, 10e siècle comme une fontaine d'où sortent des fleuves d'eau vive, merveilleux symbole de vie que le Christ donne au monde par le sang de sa croix. La croix source de vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, nous dit l'Évangile, mais obtienne la vie éternelle. Que demandez-vous? C'est la question que je viens de poser au nom de l'Église aux catéchumènes. La foi, que vous apporte la foi? La vie éternelle. La vie éternelle qui nous est annoncée dans la résurrection du Christ. Et c'est le sens de la fête de la croix glorieuse que nous célébrons aujourd'hui. La croix est le signe que la mort n'a plus le dernier mot. Le signe que de la mort a jailli la vie. La croix n'est pas le signe de l'échec de Jésus. Elle est tout au contraire le signe de sa victoire. Victoire de l'amour sur toutes les forces du mal. C'est à la lumière de la résurrection qu'il nous faut regarder la croix. Le pape François avait mis en garde contre deux tentations. Un Christ sans croix qui ne serait en fait qu'un maître spirituel, rien de plus. Oui, cette tentation contemporaine de réduire le christianisme simplement à certaines valeurs, à un code de bonne conduite, un christianisme privé de l'essentiel, l'incarnation de l'amour. L'amour qui sauve par le sacrifice, par la force du pardon prêt à tout. Tentation d'un Christ sans croix. Mais l'autre tentation serait de regarder la croix sans le Christ. L'angoisse de rester en bas, abaissé, avec le poids du péché, et cela sans espérance. Vous avez entendu la première lecture. Le peuple de Dieu qui marche dans le désert et qui se décourage parce que le chemin est trop long et il perd confiance en Dieu. Et comme le peuple de Dieu qui marche dans le désert, nous pouvons symboliquement être mordus par les serpents. Ces serpents qui, depuis la Genèse, représentent la tentation, le tentateur. La tentation de quoi? De douter de Dieu. De douter de sa bonté, de douter de sa bienveillance. Eh bien, nous aussi, il peut nous arriver de vivre des situations où nous sommes comme mordus par les serpents de la méfiance. Nous sommes comme empoisonnés par le découragement et par le pessimisme. Alors, prenons toujours le temps de regarder la croix. Prenons peut-être 5 minutes. À regarder un crucifix, peut-être le bijou que nous portons autour du cou, peut-être la croix que nous avons reçue à notre première communion. Oui, prenons ne serait-ce que 5 minutes pour regarder la croix avec le Christ. la croix glorieuse, la croix du Vendredi Saint éclairée par la lumière de Pâques, la certitude qu'au-delà de toute apparence, il n'y a que l'amour de Dieu qui donne un sens à l'histoire des hommes et à notre propre histoire. Amen. Victor.